Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nous serons tous derrière Benoît Saint-Denis lors de l'UFC 299 qui se déroule à Miami, co-main event en 5 rounds assez inédits face à une véritable légende du MMA et de la catégorie lightweight, peut-être le plus grand combattant à ne jamais avoir été champion undisputed, à savoir incontesté de l'UFC. Dans la catégorie, on parle évidemment de Dustin Poirier. On va analyser tout ça avec Big Rusty, qui est venu avec pas mal d'arguments en faveur de l'Américain. C'est parti, générique. Soit.
L'UFC, sa vie plus fort avec Betclic.
Big Rusty. Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis, c'est en 5 rounds, c'est un véritable choc, vraiment, on peut parler de ça, puisque bah, il y aura probablement des incidences pour la course au titre. Directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le sol, parce que c'est vrai que Benoît Saint-Denis, on a tendance à se dire, ce combat-là, au regard de ce qui s'est passé pour Dustin Poirier dans son passé, il paraît, je ne vais pas dire le plus friable, mais pour BSD, il aurait tout intérêt à aller vers ça. J'ai envoyé un énorme
postium. Ah, c'était la pluie. Oui. Ouais. Bah, c'est clair que quand on se réfère au combat que Dustin Poirier a fait contre Chandler, le round numéro 2, qu'il a fait contre Khabib tout au long du combat, qu'il a fait contre Oliveira pour le round numéro 2, ce sont que des situations où, lorsqu'il a été mis au sol, Dustin Poirier, il ne s'est jamais relevé. Et contre Khabib, il a été étranglé. Contre Oliveira, donc c'était lors du troisième round, après avoir été dépassé, Oliveira lui a pris le dos, c'était magnifique, il l'a étranglé quelque chose comme une minute après, même peut-être un peu moins. Donc, c'est vrai que quand on voit ça, quand on voit donc que Dustin Poirier semble face à quelqu'un qui est extrêmement dangereux au sol et qui a un bon contrôle et qui a une bonne pression au sol, non seulement il se fait contrôler et il peut même se faire soumettre parfois, contre vraiment c'est les meilleurs du monde, hein, là on a cité les meilleurs du monde, mais bah c'est clair que quand on regarde certains des combats de Benoît et même ceux qu'il a fait à l'UFC et même contre des gars qui sont connus pour leur sol, et on parle donc... Thiago Moïsis qui avait combattu Makhachev, qui a été jusqu'au quatrième round face à Makhachev.
Qui a amené au sol Makhachev.
Et bah, même avant ça, alors c'est encore un autre combat, mais les deux premiers combats qu'a fait Benoît à l'UFC, Stolze et Miranda, bah, Stolze, il lui a fait une Khabib. Alors oui, Stolze, c'est pas le même niveau que ceux que BSD a affronté après, mais face à quelqu'un qui est d'un bon niveau, qui était du niveau UFC, mais qui n'était pas le top niveau comme Moïsis, etc., il lui a fait la totale Khabib, Benoît. Et lorsque Benoît se s'est retrouvé donc, face à des gars comme Moïsis, eh ben, il a quand même, alors il a eu un peu plus de mal forcément à les contrôler, mais il leur a quand même fait du sale au sol, en clinch, et lorsqu'on était dans des phases de préhension. Et faire ce que Benoît a fait contre Thiago Moïsis, les renversements que Benoît a fait aussi contre Matt Ferrola et contre Thiago Moïsis d'ailleurs, c'est clair que malgré le fait que ça fait pas si longtemps que ça, ça fait pas tellement d'années que Benoît a commencé le MMA, la progression qu'il a, elle est tellement mais exponentielle et monstrueuse qu'il est capable de faire jeu égal au sol, c'est du MMA, d'accord, mais au sol avec les meilleurs dans cette discipline à l'UFC. Et après on enchaîne, mais vraiment il faut souligner à quel point c'est dingue. Parce que, alors, bah, y a le coach déjà, Christophe Savoca de Benoît Saint-Denis, qui est super chaud. Je le place à chaque fois parce que voilà, je le kiffe, donc je le place. Mais il y a aussi du coup la faculté d'apprentissage de Benoît, et on l'a vu à l'œuvre, et on en avait parlé bah, du coup dans le documentaire qu'on avait pu faire avec ses sparring partners. Il fait rien au hasard, Benoît, en fait. C'est-à-dire qu'il va pas à l'entraînement juste pour aller à l'entraînement un jour. À chaque fois qu'il fait des entraînements, c'est pour apprendre et progresser et en sortir avec des nouvelles choses. Ça, plus les capacités d'apprentissage, ça existe. Ça explique pourquoi est-ce qu'il a progressé aussi vite. Mais, et la raison pour laquelle je mets vraiment l'accent dessus, c'est, bah, on a fait récemment la preview de Doumbé contre Baki. Il y avait aussi eu le combat de Cyril Gane contre John Jones. Et généralement, ce qui se dit, c'est que c'est très compliqué pour les sports de, donc le grappling et les sports de sol, les sports de préhension, de rattraper un retard d'années. Parce que lorsque tu as un retard, c'est des automatismes en fait que tu n'as pas. Tu peux réfléchir comme il faut, à la vitesse qu'il faut, savoir ce qu'il faut faire, mais ton corps n'a pas fait ça en tant que seconde nature. Tu as l'impression que Benoît, il a réussi à, entre guillemets, gratter ce retard pour avoir aussi les automatismes et réussir à dépasser au sol des gars qui sont connus pour avoir ça dans leur besace et faire le plus gros de leur travail ici, quoi.
Complètement, Big Rusty. Il convient aussi quand même de préciser que Dustin Poirier est loin d'être un peintre en la matière. On a pu le voir notamment lors de sa dernière victoire par soumission qui date d'il n'y a pas si longtemps contre Michael Chandler. Donc c'est pour ça aussi, il faut vous dire que Dustin Poirier, dans ce domaine-là, il n'est dépassé que par les meilleurs des meilleurs. Il avait aussi soumis, mais il y a très longtemps de ça quand même, et pour vous dire que c'est quand même un grand nom qui n'était pas à l'époque, un certain Max Holloway.
Oui, absolument. C'est vrai que ça remonte, là, ça remonte à longtemps, mais effectivement, et il faut aussi souligner, et c'est vraiment bien d'en parler, que la soumission qu'il a prise contre Michael Chandler, parce qu'on a dit au tout début du podcast que le round 2, il avait été mis au sol et contrôlé pendant tout le round par Michael Chandler, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au troisième, Michael Chandler a voulu remettre au sol Dustin Poirier, et en fait, il a été peut-être un poil négligent et Dustin Poirier n'a pas loupé le coche à un moment où ils étaient dans un scramble, c'est-à-dire en train de il y avait un mouvement dans lequel qui était imposé par l'un et par l'autre, ça bougeait et Dustin Poirier a réussi à se défaire, je crois que c'était d'un décrochet de Michael Chandler, et donc il a réussi à retourner la situation et à se retrouver en position dominante. Et à partir de là, il y a eu de nouveaux mouvements, ils ont essayé d'avancer, de progresser, et il a fini par se retrouver dans le dos de Michael Chandler et il l'a soumis Dustin Poirier. Donc en fait, oui, probablement que c'est là qu'entre guillemets il aura le plus de possibilités et de probabilités de faire la différence Benoît, disons, comparé à debout, parce que même si debout il peut tout à fait gagner Benoît, c'est quand même face à quelqu'un, et on en parlera après, qui est connu pour être efficace dans ce domaine. Tandis qu'effectivement au sol, même si ça reste dangereux, parce que si tu fais une erreur ou si tu fais un zig au lieu d'un zag, comme Michael Chandler l'a fait, ben il peut aussi te soumettre, il est aussi opportuniste et il a fait ça toute sa vie, Dustin Poirier. Donc c'est pas effectivement comme si t'avais un gars qui venait vraiment du pur kickboxing, c'est pas le cas, mais c'est simplement que typiquement si on reprend par exemple le combat contre Oliveira, le deuxième round, il le passe complètement au sol et il bloque même le jeu de Dustin Poirier, et quand on dit qu'il bloque le jeu, c'est qu'il fait par exemple un triangle de corps alors qu'il est en position, il est en dessous, et il bloque ses jambes pour, entre guillemets, c'est un aveu d'impuissance, parce que quand tu fais ça, c'est bon, tu sais que tu ne vas pas t'en sortir, mais au moins tu limites l'avancée du mec qui est au-dessus de toi. Et donc en gros, c'était un peu l'aveu de la part d'Dustin Poirier de je veux même pas tenter quoi que ce soit au sol contre Charles Oliveira, parce qu'il est tellement réglé, opportuniste et efficace quand il y a des scrambles, du mouvement et que ça bouge, que je veux même pas le risquer. Et ça, pour moi, un peu de la même manière que lorsque certains combattants vraiment refusent d'aller au sol face à des gars qui sont des magiciens en la matière, quand tu refuses de le faire, c'est déjà effectivement qu'il y a quelque chose qui, où tu sais que tu n'es pas en pleine confiance et où tu sais que ça peut mal aller si toi-même tu essaies de jouer ce jeu-là. Et quand on voit à quel point lui, Benoît, il est opportuniste, à quel point il est bon pour progresser, pour passer les gardes, pour réussir à prendre le dos des adversaires, même à partir du clinch, mais effectivement, voilà, c'est pas un peintre Dustin Poirier. Si tu fais des erreurs, lui aussi peut en profiter, mais de manière générale, quand il sait qu'il y a un trop gros danger et que le gars en face a montré qu'il avait un très gros niveau et du contrôle, généralement, il essaye quand même d'éviter le sol. Et ça dépendra de comment est-ce qu'il approche Benoît, ça dépendra de comment est-ce qu'il voit Benoît, s'il estime que Benoît est une menace ou pas. Mais si il estime que, même malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup d'années derrière lui, que Benoît, tout ce qu'il fait, il l'a fait tellement bien que c'est vraiment dangereux pour lui, peut-être qu'il ne voudra même pas aller au sol ou essayer de le fuir comme peut-être il l'a fait contre Oliveira. On n'est pas en train de comparer Oliveira et Benoît Saint-Denis, mais je pense que vous voyez où on veut en venir, quoi.
Parce qu'on rappelle, Benoît Saint-Denis, 100% de ses victoires viennent par finalisation, aussi bien KO TKO que soumission. Ouais. Big Rusty, je voulais ajouter également un point qui va être important. Vous avez sans doute tous vu les images capturées par RMC lors de l'inter-round de Benoît Saint-Denis lors du premier UFC Paris ou deuxième UFC Paris où Daniel Vora lui dit ne va pas.
Le deuxième, le c'était deuxième. Contre Moïse.
Voilà, exactement, contre Thiago Moïse. Pas de bagarre. Et justement, Dustin Poirier, c'est un domaine où Il excelle tout simplement, et c'est vrai que BSD a gagné, enfin on va dire, le public américain là-dessus, parce qu'il y a énormément de highlights de BSD, mais c'est vrai qu'il aura tout intérêt, même debout, à être extrêmement discipliné, parce que Dustin Poirier, les guerres, c'est vraiment ce qui lui permet de dépasser ses adversaires.
Et la raison pour laquelle Daniel Voorhin disait ça, par exemple, dans ce combat-là, c'est qu'en fait, quand un combattant va à la bagarre, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est une bonne chose parce que du coup il est dur au mal, enfin tu sais, c'est un peu les mots qui viennent quand on parle de bagarre. En réalité, le problème c'est que quand tu vas au charbon, mais un peu en délaissant la technique, juste en voulant faire mal au maximum, tu crées des ouvertures. Et contre Thiago Moïsis, bah effectivement, ça s'est vu parce qu'il y a des moments où Benoît voulait tellement démonter Thiago Moïsis qu'il a délaissé sa défense et qu'il avançait parfois en mettant des coups, mais vraiment le menton à l'air, ce qu'on appelle à l'air, c'est-à-dire menton pas forcément protégé, pas avec des mouvements tête qui font que la cible est mobile et donc plus facile à toucher. Et il en a pris des bonnes contre Thiago Moïsis. C'est juste que comme Benoît a un très gros menton, ça va, ça l'a pas fait tomber, mais... Ça, typiquement, peut-être de manière répétée contre Dustin Poirier, parce que Dustin Poirier, il est très difficile quand même à stopper. Faut le mettre KO ou faut le soumettre, mais c'est pas facile du tout. Donc, il y a moyen que ce soit une guerre qui dure peut-être même 5 rounds. Des échanges répétés où Dustin Poirier arrive à toucher Benoît parce que Benoît voudrait peut-être aller à la bagarre et délaisserait un peu sa discipline et sa méthode défensive, ça peut accumuler les dommages et à la fin... C'est ça qui peut changer la donne dans le combat.
Et puis surtout, qu'il y a vraiment, par rapport à ça, c'était aussi ce côté, tu peux pas le briser, Dustin Poirier. Là où il y a plein de mecs qui finissent au bout d'un moment, regardez tous les combats de Justin Gaethje, il va s'en prendre beaucoup, mais au bout d'un moment, Fiziev récemment, voilà, ça va se terminer. Dustin Poirier, il y a l'UFC qui a uploadé le combat il y a pas longtemps contre Dan Hooker, voilà. Il est en retard au début du combat, et justement, Dan Hooker a peut-être été un peu trop à la bagarre dans ce combat-là. Finalement, il a perdu par décision, et il y a les fameuses images de l'après-combat, où, certes, il a tenu les 5 rounds, mais c'était un homme complètement brisé.
Ah oui, bah voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après le combat, il y a les images, les vidéos qui sont sorties. En fait, Dan Hooker est sur un brancard à la sortie du combat. Il est pas inconscient, mais il est les yeux fermés, et il est vraiment en état presque léthargique, tellement son corps... ne peut plus soutenir ce qui se passe en fait, tellement il a pris de dommages. Et d'ailleurs, effectivement, justement, dans ce combat entre Dustin Poirier et Dan Hooker, c'est vrai que c'est un bon exemple, parce que faut savoir que Dustin Poirier, il a fait quasiment presque que des guerres en fait à l'UFC. Chacun de ses combats, même si ça va que au deuxième ou troisième round, il y a des échanges, il en prend, il en donne, c'est la guerre, ça va au mental, etc. Et contre Dan Hooker, ça a duré effectivement 5 rounds. Et le truc qui est dingue, et c'est là où effectivement pour Benoît, rester méthodique, ça va probablement être vraiment important, c'est que il prend des impacts, notamment au corps, à la tête, des genoux, des kicks, dès le premier, le deuxième round, et vraiment des énormes parpaings de la part de Dan Hooker. Des trucs, normalement, d'une telle puissance que lorsque tu les encaisses aussitôt dans le combat, et que ça continue, parce que ça a été tout au long des 25 minutes, normalement, au bout d'un moment, tu brises. Sauf que, effectivement, par exemple, donc déjà, il n'a pas brisé Dustin Poirier et il a gagné au mental, en plus de réussir à se régler techniquement au fur et à mesure du combat, parce que c'est ce qu'il fait aussi. Il est capable de décrypter un petit peu ce que fait l'adversaire et de s'améliorer, de s'adapter, de se régler au fur et à mesure du combat Dustin. Et même, tu citais effectivement le combat contre Justin Gaethje. Grosso modo, c'était Justin Gaethje qui essayait de tuer les jambes de Dustin Poirier avec des low kicks, et on sait à quel point ça peut aller très vite, que ta jambe ne réponde plus et que le combat se termine lorsque tu prends trop de low kicks, ce Justin Gaethje en plus. Sauf que il y est allé au mental Dustin Poirier, et c'est lui qui petit à petit a réussi à faire tellement s'accumuler le dommage dans la tête, donc pour le coup, de Justin Gaethje, que ben, c'était un bras de fer, low kick contre gros parpaing, et c'est Dustin Poirier qui a fini par gagner. Et généralement, c'est ça avec Dustin. C'est pour ça qu'on dit que, à moins qu'il ne le mette KO sur un coup, à moins que ça n'arrive pour Benoît, réussir à briser dans une guerre Dustin Poirier, faut se dire que c'est quasiment impossible.
Mm-hmm. Biosti, un point qui est important, que tu soulèves, on en avait parlé lors de notre preview de Volkanovski contre Topuria, justement ce menton de Dustin Poirier. Au mois de juillet dernier, il s'est pris un KO, le premier depuis le KO qu'il avait subi contre Michael Johnson il y a bien longtemps de ça. Donc il s'était incliné sur head kick là face à Justin Gaethje au mois de juillet dernier. Est-ce qu'on peut se poser la question de Dustin Poirier, il y a le poids des guerres, l'âge quand même, et donc là il revient d'un KO. Est-ce que ça peut jouer pour toi, ou on est dans une situation où pas vraiment d'inquiétude?
Bah, il a prouvé effectivement qu'il avait pu prendre un sale KO Dustin Poirier et revenir. Il l'a fait après son KO en featherweight contre Conor, il l'a fait après son KO contre Michael Johnson en lightweight. Donc il a, alors l'âge va pas aider, c'est sûr, mais en tout cas il a prouvé Dustin Poirier que c'était pas quelqu'un que tu peux briser psychologiquement après avoir pris un gros KO devant le monde entier. Parce que contre Conor, c'était vraiment pendant l'ascension de Conor, donc c'était devant des millions de gens. Donc psychologiquement, je pense pas que Dustin Poirier arrivera éreinté ou d'une manière un peu différente, d'autant plus que c'était pas comme s'il avait pris genre un coup bien placé où on aurait pu se demander oula, est-ce que son menton s'est effrité. C'est un high kick en coup du lapin, donc bon, c'est quand même compliqué de Justin Gaethje. Donc je pense pas que ça fera nécessairement une différence ce combat là contre Gaethje. Par contre, on le sait aussi, ces combats accumulés, même avant cela, il prend beaucoup de coups de Dustin parce qu'il va au contact, parce qu'il veut créer des échanges. Bah ça, il y a toujours un moment où ça pète. Il y a toujours un moment où on pense toujours à Chuck Liddell, mais il y a d'autres combattants qui sont comme ça aussi, qui avaient un gros menton pendant toute leur carrière. Et il y a un moment où le corps, t'as l'impression qu'il dit stop, le menton dit stop, et avec des coups qui sont bien moindres et bien moins puissants que ce qu'ils ont connu pendant toute leur carrière, bah au bout d'un moment, il y a un stop du corps et...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
À chaque combat, t'as un petit impact et ça tombe. Peut-être que ce sera ce combat-là pour Benoît, pour Dustin, peut-être pas. Bah en tout cas, je pense pas qu'il faut qu'on mise dessus parce que jusqu'à maintenant, à part ces KO-là qu'il a pris qui étaient vraiment des énormes tombes, enfin ce qu'il a pris contre Michael Johnson, le mec littéralement lance une balle de baseball dans la tête de Dustin, l'autre c'est un high kick, et le reste du temps, que dans toutes les guerres contre Gaethje, Hooker et tous les autres, il encaisse sans broncher, mais vraiment sans broncher Dustin quoi.
Et techniquement, Big Rusty, debout, en quoi est-il si dangereux de Dustin Poirier? Parce qu'on pense à la revanche contre Conor McGregor, on pense son combat contre Max Holloway. Il a déjà affronté des très grands strikers et il a réussi à les dépasser techniquement.
Ouais, alors déjà, il y a un truc qui est quand même très important qu'il faut noter, c'est que les deux sont gauchers, Dustin et Benoît Saint-Denis. Et la raison pour laquelle c'est très important, c'est notamment pour les kicks de Benoît. Parce que les gauchers, c'est plus rare dans la vie comme dans les sports de combat. Et ben, généralement, quand tu es gaucher, tu affrontes des droitiers, mais du coup, les gardes sont inversés. Ce qui fait que tu es beaucoup plus susceptible, l'un comme l'autre, mais seulement le gaucher a plus l'habitude, des kicks, les middle kicks, les high kicks, parce que du coup, tu as plus de charge, ils sont plus puissants, et ton corps est plus ouvert, forcément, ben, en fonction des positions qu'ils ont. Là, en l'occurrence, Benoît pourra moins facilement utiliser ses kicks, parce qu'ils ont la même garde, puisqu'ils sont gauchers tous les deux. Après, c'est pas pour autant que, enfin, c'est pas une fatalité, dans le sens où, par exemple, Dustin Poirier, quand il a affronté Conor McGregor lors de leur deuxième combat, il a utilisé de manière magnifique les low kicks, les kicks au mollet, et qui peuvent vous tuer le mollet. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé.
Et très rapidement.
Et très rapidement. Et c'est ce qui s'était passé parce que Conor McGregor, qui utilisait surtout son anglaise et ses poings, du coup, avait beaucoup de poids sur sa jambe avant pour essayer de trouver des angles contre Dustin. Et après quelques low kicks seulement. Déjà, on a senti qu'il y avait une différence dans l'attitude de la part de Conor, et le chaos arrive comme ça. À partir du début jusqu'au moment où ça tombe, c'est Conor McGregor qui mettait la pression à Dustin et qui essayait de le pousser contre la cage. Et en fait, il y a un moment donné où Dustin lui met encore un, parce que ça s'accumule, un coup au mollet, un low kick, un coup de tibia. Et en fait, Conor ne bouge plus. C'est-à-dire qu'en fait, il le fixe rien qu'avec ce kick, parce que Conor n'en peut plus et que sa jambe est morte. Et ben en fait, Dustin n'a plus qu'à contourner Conor, et c'est Conor qui se retrouve le dos à la cage, et là il lui envoie un barrage, mais genre d'une dizaine de coups le plus puissamment possible, ou presque, Dustin, et ça met KO Conor. Il faut le dire, ça met KO Conor, il est inconscient pendant quelques secondes.
Ouais, avant c'est pas un TKO.
Voilà, c'est pas un TKO. Donc il faut savoir effectivement que du coup pour les kicks de Benoît, ce sera plus compliqué, et on sait que notamment les middle kicks qu'utilisait beaucoup Benoît, bah déjà pour creuser le cardio, pour faire mal, et en plus pour exploser les bras de ses adversaires, comme il avait fait par exemple contre Bonfim, ce sera plus difficile. Il peut donc, et Benoît et Dustin pourront donc utiliser les low kicks, les kicks au mollet, Par exemple, le high kick qu'a pris Dustin contre Justin Gaethje, bah là, typiquement, ce sera plus dur pour Benoît, parce que donc Justin Gaethje était droitier et donc c'était un kick qui venait de la jambe arrière, qu'il avait camouflé, etc. Ils ne seront pas dans les mêmes dispositions, ils ne seront pas dans la même position. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui est une grosse partie du jeu de Benoît, c'est les énormes kicks. Mais je pense que là où Benoît peut faire une grosse différence, c'est que il fait du Muay Thai Benoît, c'est-à-dire qu'il utilise tout, et que ce soit ses front kicks qu'il peut utiliser au corps contre Dustin Poirier, qui a une posture qui est lui aussi un petit peu penchée vers l'avant, mais c'est pas non plus abusé, c'est-à-dire qu'il a quand même un centre de gravité qui est un peu plus équilibré, mais comme il utilise beaucoup son anglaise, ça peut quand même être pratique d'utiliser des front kicks, parce que ça intercepte, ça casse le rythme, et en plus ça peut creuser le cardio. On sait que Dustin Poirier a un cardio quasiment illimité, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner l'idée de le creuser un petit peu. Et puis surtout, comme on l'a vu contre Oliveira, alors Oliveira était droitier, je sais que les positions ne s'appliquent pas également, mais par contre, ce qu'il a vraiment super bien fait Oliveira, c'est qu'il a utilisé toutes les armes, les coudes, les genoux, beaucoup les front kicks, donc, et le clinch beaucoup, et c'est ça qui a en partie amené la chute de Dustin Poirier, parce qu'au-delà du fait que tu peux donc potentiellement le dépasser, Dustin Poirier, il y a le fait que lors de leur combat, c'est la peur, entre guillemets, qu'avait installé Oliveira en Dustin Poirier, parce qu'il essayait à chaque fois, il lui mettait un coup, et à chaque fois il essayait ensuite de le choper à l'arrière de la tête pour lui mettre des genoux, il lui en a mis des très bons, ce qui a commencé d'ailleurs à mettre un peu en état d'alerte Dustin Poirier. Et en fait, au bout d'un moment comme ça, il a tellement eu, entre guillemets, imprimé dans sa tête Dustin le fait qu'à tout moment dans un échange, tu peux avoir donc des genoux qui viennent, et tu peux avoir Oliveira qui te chope, etc. Tu peux avoir des phases de préhension mélangées au striking, que du coup il a commencé à se tenir un peu plus droit pour ne pas se faire choper à l'arrière de la tête et puis réduire les chances de se prendre des uppercuts, des coups de coude, etc. Et sauf que du coup, il en a profité Oliveira pour y mettre des coups, et lorsqu'il faisait entre guillemets des feintes ou qu'il montrait à Dustin Poirier qu'il peut arriver en clinch, Dustin Poirier se met tout droit, et du coup, c'est là qu'il a changé de niveau Charles Oliveira, qu'il a plongé et ensuite qu'il est passé dans son dos contre la cage, et ensuite il l'a soumis. Et là où je veux en venir aussi, c'est quelque chose dans lequel il est très bon Benoît, et donc notamment aussi contre Thiago Moïse, quand il s'agit de mettre la pression avec toutes les armes qu'il a à disposition, dont le clinch, pour essayer de dépasser un petit peu son adversaire, parce que ça vient de tous les côtés, avec toutes les armes, de tous les angles possibles, et que ça vient avec puissance, moult puissance quand c'est Benoît, le fait que Benoît puisse faire reculer ses adversaires, les mettre contre la cage, on sait qu'après c'est plus facile pour les mettre au sol. Et donc il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'à l'ouvert, on va voir comment est-ce que la différence de style se fait entre Benoît Saint-Denis, qui va peut-être être un peu plus divers dans les armes qu'il va utiliser contre Dustin Poirier, qui est généralement un peu plus que avec les poings et l'anglaise. Mais Benoît peut utiliser son Muay Thai et sa pression pour pousser Dustin contre la cage et faire ce qu'il a fait grosso modo à tout le monde à l'UFC, Benoît. Mettre contre la cage, t'es quasiment sûr qu'il va plonger dans tes jambes, ensuite soit passer dans ton dos, soit te mettre au sol, et ensuite soit il te tabasse, soit il te soumet, mais en tout cas tu t'en sors pas, ou très difficilement. Et donc c'est là où ça peut vraiment être efficace, c'est que il peut tout mixer Benoît, et on a vu qu'il savait le faire contre les meilleurs combattants mondiaux. Et je finirai là-dessus, mais simplement voilà.
Confiant, donc.
Pas confiant, mais il a largement les armes, quoi, Benoît. Et surtout maintenant on est rassuré parce qu'on a vu qu'il pouvait faire ce qu'il faisait au Brave déjà, ce qu'il a fait dans ses premiers combats à l'UFC contre des gars qui étaient un petit peu moins forts que ceux qu'il a affrontés dernièrement, en fait, il le fait, et t'as l'impression, sans beaucoup plus de difficultés, même contre les meilleurs du monde. Et c'est ça qui, effectivement, moi, me dit, très clairement, il a des chemins vers la victoire qui sont plus faciles que d'autres s'il les utilise, notamment avec toutes ces armes-là, le clinch, le sol, etc., et tout mixé.
Et dernier point, Big Rusty, qui a son importance.
Et dernier point qui a son importance, c'est effectivement que, parce que, par contre, si jamais Benoît se retrouvait entre guillemets piégé dans le rythme et la distance de Dustin Poirier, là ça peut être un enfer. Parce que si Benoît se retrouve dans des échanges majoritairement d'anglaise et à une distance et un rythme imposé par Dustin Poirier, il est tellement, tellement affûté, Dustin Poirier, que là c'est son monde. Si vous restez en anglaise et que vous essayez de faire de la boxe entre guillemets propre contre Dustin Poirier, là vraiment vous êtes mort. C'est-à-dire que
tout le monde.
Tout le monde, et le coup d'œil qu'il a, sa garde qui est un peu étrange et dont même Max Holloway disait j'arrive pas à le toucher, il a une garde bizarre, c'est contre son timing, et c'est vraiment des détails, mais il y a des trucs par exemple tout bêtement, tu vois, contre Justin Gaethje par exemple, il va utiliser son jab, mais pas forcément pour faire mal, juste pour faire diversion, et en même temps, juste, il va faire quelques ajustements au niveau de son jeu de jambes pour se placer dans l'angle extérieur de Justin Gaethje, et en même temps avancer un tout petit peu pour se placer parfaitement dans un endroit, un angle extérieur où Gaethje ne peut plus répondre, mais où lui est en bonne position pour frapper. Ensuite, il envoie son bras arrière qui touche, et il construit aussi au fur et à mesure du combat, en voyant ce qui marche pas, et en mettant... lorsqu'il voit que son jab marche, et ben ensuite après son jab il met autre chose, et puis ensuite il peut faire peut-être feinte de jab et il vient directement avec un rythme différent avec un bras arrière. Ça, c'est des gammes qu'il répète mais depuis peut-être dizaines de combats à l'UFC, avec un succès qui, quand c'est dans cet endroit-là du combat, c'est quasiment inégalé. Donc dans ces phases-là, si Benoît n'arrive pas à imposer son rythme, sa pression, et à peut-être effectivement déjà amener différentes armes, et ou peut-être salir le combat, et ou en tout cas faire du MMA et l'amener dans des zones autres que de la boxe propre, ça ira peut-être beaucoup mieux. Mais si ça reste comme ça, on a vu que même Connor, qui avait fait un plutôt bon premier round en tout cas en termes d'anglaise, et il est rapide, on sait qu'il a un très bon coup d'œil, après quelques échanges, Dustin Poirier avait pris la mesure de Connor, de son jab, de ses angles, de sa manière de bouger. Et c'est quand même pas rien de réussir en un round et demi ou presque, même s'il y a eu des low kicks, à capter et battre à son propre jeu Conor McGregor en anglaise, même si c'était pas le Conor des grandes années, mais quand même on sentait qu'il était affûté, quoi.
Birosti, ouais. Place au pronostic.
Ouais.
Oh, l'ultime bafouille.
Ouais, oh,
pronostic, quoi.
Moi, je vais quand même... Honnêtement, ça va être chaud de ouf, mais je pense que Benoît peut le faire. Hein. Je pense que Benoît peut le faire. Si on se réfère à sa courbe de progression et à ce qu'il a réussi à faire comme sale au gars qu'il a rencontré jusqu'à maintenant, en réalité, je pense qu'il a ce qu'il faut, Benoît, pour choquer la planète et pour battre Dustin Poirier. Donc, je pense peut-être en utilisant tout son MMA global, son MMA total, sa pression au sol, ses contrôles et puis sa destruction, quoi. Et je vais mettre Benoît par... c'est chaud quand même. Mais allez, soumission, troisième round.
Soumission.
C'est ce que t'avais dit
aussi. Il m'a piqué mon pronostic.
Allez.
Il m'a piqué mon pronostic, les gars. Donc j'allais regarder comme ça innocemment Big Rusty sur BetClick pour voir nos chères cotes. Bien évidemment, vous pouvez jouer sur BetClick, mais raisonnablement, pas au-dessus de vos moyens. Si vous avez plus de 18 ans et avec le code SWEAR en plus, les gars, vous avez 100€ offerts sur BetClick. Et donc, le pronostic, de mon côté aussi, c'est une soumission de Benoît Saint-Denis, parce que c'est vrai que les dernières défaites de Benoît Saint-Denis, c'est chaque fois, et surtout quand ça va, on va dire ça va au sol, parce que Justin Gaethje, je mets ça un petit peu à part, parce que c'est vraiment un combat, on va dire, on voyait qu'on était au début de ce qui allait se passer, et on s'attendait tous à ce qu'on parte plutôt sur une guerre qui soit, un combat assez long, plutôt que ça se termine assez rapidement comme ça s'est terminé. Et sinon, Dustin Poirier, quand il perd, c'est toujours des gars qui ont plusieurs cordes à leur arc, mais véritablement. Sinon, chaque fois qu'il affronte des strikers, aussi grands soient-ils, c'est terminé pour eux. Et BSD, comme il a... Et en plus, et là où moi je suis rassuré aussi pour Benoît Saint-Denis, c'est que même si il venait à se faire coincer, comme les Dan Hooker, comme les Conor McGregor, comme les Max Holloway, Benoît, on l'a dit, il a un manteau en adamantium. Donc il pourrait perdre un round BSD et se prendre n'importe quoi, 50 coups dans le round. Je pense qu'il serait toujours là. Il peut seulement perdre un round, mais il sera toujours là. Et ensuite, il aura d'autres armes face à Benoît Saint-Denis, face à Dustin Poirier. Alors que les autres, quand on voyait les Max Holloway, en fait, à partir du moment où il n'y avait plus de chemin vers la victoire, on était en mode merde. En fait, ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent plus rien faire d'autre.
Ouais.
Et c'est ce qui était très frustrant, par exemple, quand on voyait le combat contre Max Holloway, c'est que chaque fois que Max Holloway commençait à trouver son rythme, commençait à mettre du volume, il se faisait brutalement stopper. Ça a été l'histoire du combat pendant 5 rounds. Et BSD, lui, il aura beaucoup plus de cordes à son arc, avec en plus, pour moi, une agressivité qui va être maîtrisée, intelligente, qui fait qu'il peut s'imposer et que je le vois comme Big Rusty. Vous allez vous dire, les gars, Mais je vois BSD s'imposer par soumission au troisième round, également Big Rusty. Et parce que pour moi, si ça va à la décision, je pense qu'on sera sur une victoire de Dustin Poirier, parce que ça voudra dire que la stratégie BSD n'aura pas fonctionné selon moi. Et donc, en termes de cote Big Rusty, accroche-toi bien, est-ce que BSD est toujours favori? Cote à 61 au moment où on fait ce podcast, contre 2,20 pour Dustin Poirier. Et donc, avec notre pronostic à Big Rusty, on est à 4,50 pour BSD par soumission.
Et si on voit une finalisation de BSD, cote à 2,08. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Birosti?
Ouais, et simplement que, comme t'en parles, mais c'est, ça nous permet aussi de. Comme ça, on aura tout couvert. Et effectivement, vraiment, l'intérêt, ça va. L'importance extrême, ça va être de tout mixer en même temps. Parce que, fait, ça, j'avais oublié de le dire aussi, mais lorsque tu fais des takedowns, entre guillemets, sans les avoir camouflés, et comme ça, simplement, à l'ouvert, juste en rentrant dans les jambes, avec un mec aussi expérimenté que Dustin, ça passe. Ça ne passe pas tout simplement. Donc l'avantage, c'est que Benoît a déjà prouvé qu'il pouvait timer avec son timing, passer en dessous d'écoute de son adversaire lorsqu'il a réussi à créer des échanges. Et ben, il passe en dessous d'une réponse de l'adversaire pour changer de niveau, le déséquilibrer, le faire tomber. Et même il peut faire ça contre la cage. Il commence un échange, le gars est en panique, il commence à envoyer des crochets, bah, Benoît passe dessous et le met au sol. Et ce sera le dernier truc pour moi, mais c'est aussi on a parlé des kicks de Justin Gaethje et le fait que comme ils sont tous les deux gauchers, ce sera beaucoup moins facile. En tout cas, ce kick-là particulièrement. Néanmoins, et c'est quand même assez important aussi, toujours dans cette optique, pas juste du striking pur, mais aussi lié au MMA, eh ben, c'est le kick qu'il a mis contre Matt Frevola. Parce que le kick qu'il a mis contre Matt Frevola, et dont on a d'ailleurs vu les images avant ça à l'entraînement quand il le travaillait avec Daniel Voirin, eh ben, c'est pas juste un kick à la kickboxer, c'est un kick où... Après avoir, comme Oliveira contre Dustin Poirier tout à l'heure, on en parlait, mais après avoir imprimé un peu dans la tête de ton adversaire que t'as pas envie de te retrouver en clinch, où le mec peut te choper, te mettre la main dessus pendant une des phases du combat, et ben Benoît, en gros, contre Matt Frevola, il s'est retrouvé dans une position où il a gardé le contact avec Matt Frevola le plus longtemps possible pour imprimer dans sa tête que je suis là et si tu ne te barres pas, je peux te choper. Et donc le mec reste Matt Frevola en mode... potentiel grappling, il peut mettre la main dessus, etc. Et du coup, il ne pense pas au kick. Et Benoît lui met le high kick à ce moment-là. Et ça passe crème. Il l'avait taffé à l'entraînement. On a vu la vidéo. Mais c'est parce que c'est vraiment... il le camoufle et il le set up par du MMA. Parce qu'ils impriment la menace du grappling et de « je peux te les mettre la main dessus ». Et c'est pour ça que ça passe. Donc c'est vraiment tout ça. Enfin, le globalement, c'est ça, quoi.
Globalement, réponse samedi 9 mars prochain. À Miami, Big Rusty, on sera présent, Big Rusty sera présent à Miami, et on sera 70 Français du Last Fear Trip à être présent.
Il a été full rapidement, je crois. Hein.
Exactement, pour encourager BSD, ça fait plaisir. On vous réserve quelques surprises, et vous verrez les drapeaux bleu, blanc, rouge, en mode le COP BSD, qui seront là pour le soutenir. D'ici là, portez-vous bien, puis Big Rusty, on se retrouve très vite. See ya.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.